Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral, et une chance surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Interview avec une chercheuse et le collectif d'aide aux jeunes étrangers.
Reportage à la Crête d'Or, le concours de dégustation des poulets de Bresse à la brasserie Bernard.
Nathalie Arthaud, candidate du parti Lutte Ouvrière, était à Bourg vendredi dernier.
Et des idées cadeaux locales pour Noël et reportage au marché de Noël de Bourg-en-Bresse.
Et tout de suite, c'est toute l'actu en bref.
Bourg en bref.
Le plan blanc est activé dans les hôpitaux de l'Ain.
À la demande de l'ARS, l'Agence régionale de santé, les établissements de santé doivent activer leur plan blanc, c'est-à-dire une organisation d'urgence pour faire face à l'augmentation des hospitalisations à cause du Covid. L'hôpital Fleurias s'est réorganisé dès la semaine dernière. Des déprogrammations d'opérations non urgentes sont prévues. Au 7 décembre, une trentaine de patients étaient hospitalisés dans les établissements de l'Ain pour cause de Covid, un chiffre qui reste en dessous de ce qu'ils ont pu connaître, mais l'évolution de la hausse reste rapide, selon la directrice de l'hôpital Fleurias. Au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, la moitié des lits en réanimation sont occupés par des patients Covid au 9 décembre. Mais le taux d'hospitalisation de l'Ain est le plus faible d'Auvergne-Rhône-Alpes. La direction invite aussi les usagers à appeler d'abord le SAMU, le 15, en cas de problème pour éviter la saturation du service d'urgence. Côté vaccination, le nombre de vaccinés dans le département est inférieur à celui de la région et du pays. Deux centres ont rouvert ce lundi 13 décembre, à Amberieu-en-Bugey et à Villars-les-Dombes. 8 centres de vaccination sont donc opérationnels dans tout le département et de nouveaux rendez-vous seront proposés.
Et certaines personnes n'ont pas besoin de rendez-vous.
Oui, ça concerne les plus de 65 ans qui doivent faire leur rappel, ceux qui n'ont pas eu de dose de vaccin et les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen. Au 10 décembre, les chiffres de l'assurance maladie annoncent un peu plus de 70% d'Indinois totalement vaccinés. La préfecture de l'Ain souhaite aussi ouvrir la vaccination à tous les enfants volontaires d'ici à la fin de l'année.
EDF condamné en appel pour des fuites radioactives à la centrale du Bugey.
Le tribunal de Lyon a confirmé la condamnation de l'entreprise française le 7 décembre. Il y a 4 ans, en décembre 2017, un problème de canalisation avait entraîné une fuite de tritium et entraîné une pollution radioactive des eaux souterraines. Les associations Sortir du nucléaire Bugey et Sortir du nucléaire Isère ont alors porté plainte en 2018 contre EDF. L'entreprise écope donc d'une amende de 3000 euros pour infraction de rejet non maîtrisé d'une substance radioactive dans l'environnement. C'est la troisième condamnation pour la centrale du Bugey pour des incidents entre 2013 et 2018.
Bonjour David.
Bonjour.
Vous avez rencontré Nathalie Arthaud de passage à Bourg-en-Bresse.
La candidate du parti Lutte Ouvrière est venue à la rencontre des militants burgiens vendredi dernier pour mobiliser ses troupes en vue de la présidentielle. C'est sa troisième candidature. Elle avait obtenu 0,56% puis 0,64% des voix lors de ses premières tentatives. J'en ai profité pour lui poser quelques questions sur son projet et sur le déroulement de cette campagne. Alors bonjour Nathalie Arthaud, pourquoi avoir fait étape à Bourg-en-Bresse dans le cadre de cette campagne présidentielle ?
Je fais une tournée dans tout le pays. Je me suis basée là sur Lyon toute cette semaine. Demain, j'irai à Annonay. Il s'agit d'une pré-campagne. Nous lançons aussi dans la mêlée, Lutte Ouvrière.
Dans le cadre de cette pré-campagne, où en êtes-vous donc de vos 500 signatures ?
Ça avance. C'est un travail militant. Nous allons le continuer en fait jusqu'en février parce que nous n'avons pas d'élus. Mais nous sommes confiants. Je pense qu'on va trouver effectivement des maires suffisamment attachés au pluralisme et puis au fait que notre voix puisse s'exprimer pour que je puisse être présente dans cette campagne.
Que pensez-vous de la proposition d'Anne Hidalgo de faire une primaire à gauche ?
Pour moi, la perspective de l'union de la gauche n'en est absolument pas une. Hein. On l'a eu avec Mitterrand, on l'a eu avec Jospin, on l'a eu d'une certaine façon avec Hollande aussi. Ça a été finalement pour avoir un gouvernement qui a mené la même politique que ses prédécesseurs de droite. Hein, c'est assez quand même évident de voir que gauche, droite, hein, ils se sont relayés au pouvoir et puis ils se sont passés le relais.
Les scores des deux premières campagnes étaient assez faibles. Quelle stratégie vous mettez en place cette année pour inverser la tendance ?
Non, mais moi, je n'ai pas une stratégie. Ma politique, elle n'est pas guidée par les enquêtes d'opinion ou mon score dans les sondages. J'ai mes convictions. Ma conviction, c'est que la société, elle est condamnée si on reste sous le pouvoir, là, sous le joug de cette classe capitaliste qui ne jure que par le profit, que par ses cours boursiers et ses sinécures. La société, elle est condamnée. Elle est condamnée à reculer. Si la bourgeoisie, elle reste au pouvoir, si c'est elle qui continue de dominer, on n'y arrivera pas. Donc voilà, moi, mes convictions, c'est les convictions communistes révolutionnaires, cette conviction que les travailleurs, ils font tourner toute la société, et bien ils sont capables de la diriger. Et ils la dirigeraient mille fois mieux que cette classe sociale capitaliste aveuglée par les profits.
Parmi l'ensemble de ces propositions, Nathalie Arthaud met en avant deux mesures emblématiques, l'augmentation des salaires et leur indexation sur les prix, et la répartition du travail entre tous.
Merci David. Le dernier café d'œil de l'année, c'est ce jeudi.
Le 16 décembre à 18h au centre social de Saint-Denis-les-Bourgs, vous pouvez venir prendre un verre pour parler du deuil. C'est organisé par l'association Couples et Familles de l'Ain. L'idée est d'ouvrir la parole autour d'un sujet qui reste tabou.
Radio B. Et David, le marché de Noël est de retour sur la place des bons enfants.
Annulé l'année dernière, le marché de Noël est bien là en ce mois de décembre. Vin chaud, bretzel, chocolat, fabrication artisanale, des produits à trouver dans la dizaine de chalets présents. Seule différence, le port du masque est obligatoire et il faut présenter un pass sanitaire pour manger sur place. De quoi nous ramener un peu à la réalité. Rencontre avec quelques commerçants pour sonder l'ambiance et leur demander leur avis sur le nouvel emplacement.
Je suis savoyard, je viens de Chambéry, je vends de la peluche de Noël. Franchement, les clients, quand ils s'approchent devant, ils sont émerveillés, ils sont vraiment contents d'acheter des peluches pour Noël. C'est la première fois que je le fais et je trouve vraiment ça très joli. C'est fêteux, c'est vraiment de l'ambiance, c'est une belle région.
Je travaille pour une maison d'Alsace, les Fortinger, pain d'épices, gâteau de Noël, etc.
Vous sentez qu'il y a une bonne ambiance dans ce marché cette année ?
Oui, parce que mes clientes reviennent. Tous les ans maintenant, elles me connaissent et je trouve que oui, je ne retrouve pas de morosité, non, ça se passe bien.
Et l'emplacement, vous en pensez quoi, l'emplacement sur cette place ?
Ah ben nous, moi, je pense que c'est très bien, en plein cœur de l'agglomération de Bourg.
Je trouve que c'est assez convivial. Ça fait plus un petit peu marché de Noël, petit couconnet. Voilà, je trouve que c'est assez sympathique.
Ben nous, on a fait beaucoup de marchés de Noël, puisqu'on est arrivé à peu près au deuxième marché de Noël. Et on était déjà place des Bons-Enfants, et à l'époque, on se trouvait déjà pas très bien placé. Ensuite, on est parti, on était à Amiot, c'est là que c'était le mieux. Ensuite, à la Comédie, c'était pas mal. Mais la place des Bons-Enfants est un peu excentrée et c'est plus difficile, quoi.
Je pense que l'ambiance est probablement aussi marquée par le fait qu'on nous recommande toutes sortes de précautions et on entend parler du Covid tout le temps. Donc probablement que ça explique qu'il n'y ait pas trop de monde à ce marché de Noël.
Bon emplacement ou pas, Covid ou pas, les clients se disent eux ravis de retrouver leur marché de Noël et surtout son ambiance festive.
Ouais, les commerçants sont souriants et c'est une ambiance assez chaleureuse. Ça fait plaisir de retrouver ça après le Covid. Enfin, après, c'est pas fini, mais...
Et vous venez plus, du coup, pour chercher des idées de cadeaux ou plus pour l'ambiance ?
La nourriture. Aussi pour regarder parce que c'est toujours merveilleux, les décors.
C'est retrouver la fantaisie de Noël, je trouve, aussi.
Avec les guirlandes, tout ça, ça fait vraiment Noël.
Comme j'habite à la campagne, il n'y a pas de marché de Noël, du coup, ça change.
Les commerçants sont sympas et puis on peut venir déguster des marrons, des bretzels, les classiques.
C'est quoi pour vous l'esprit de Noël ?
Faire la fête en famille, oui. Les amis. Sapin de Noël.
La nourriture,
ça revient. Ok.
Merci David. Des idées cadeaux made in 1.
Les artisans sont nombreux dans notre département. N'hésitez pas à les solliciter pour faire vos achats de Noël. Nous vous avions parlé d'Alice Desmarie la première semaine. L'illustratrice expose à la MCC jusqu'à la fin de l'année. Elle propose aussi à la vente des illustrations et des cartes pour les fêtes de fin d'année. Vous pouvez retrouver ses créations sur son Facebook Alice Summers Band. Et cette semaine, on vous fait découvrir l'atelier de Lydie à Saint-Denis-les-Bourgs. Elle est céramiste.
Je m'appelle Lydie Le Guérinel et je suis céramiste sur Saint-Denis-les-Bourgs. Alors là, nous sommes à l'atelier, au milieu des poteries, là où je travaille tous les jours, depuis bientôt 3 ans.
Pourquoi vous avez décidé de faire céramiste ?
J'ai connu la terre et la céramique il y a plus de 10 ans. Depuis, je n'ai jamais quitté la terre. J'ai toujours pratiqué, j'ai toujours perfectionné et continué dans cet univers-là qui aujourd'hui est devenu donc, mon métier.
Donc là, on est au milieu de vos créations, comme vous avez dit. Donc il y a des bougies, il y a des lampes, il y a plein de pots divers et variés. Comment vous vous inspirez pour faire ces créations ?
L'inspiration, elle vient surtout des céramistes que je suis et qui m'ont porté ces dernières années à travers leur technique. Moi je suis tourneuse essentiellement, donc je travaille avec un tour et ça me permet de réaliser... des contenants, donc bols, saladiers, pots, vases. Et puis l'inspiration, elle vient aussi des saisons, de la nature, de mon humeur, de mon quotidien, des gens qui m'entourent.
Il y a quelque chose qui m'a attiré l'œil, c'est les cache-pots et les bougeoirs avec les petites têtes de bonhomme. Comment c'est venu cette idée ?
Ça, c'est un univers très naïf qui m'accompagne depuis longtemps. Avant de faire de la poterie, je faisais de la couture et puis je donnais des cours d'art plastique aussi. Et j'ai toujours été portée par la naïveté des choses, que ce soit par les personnages ou les couleurs. Et finalement, on les retrouve sur certaines de mes céramiques. Donc, c'est un petit peu la marque de fabrique avec les pois. Voilà, ils ont un certain succès, c'est gros nez.
Comment ça marche, donc, de A à Z ? Comment vous créez, par exemple, un pot ?
Ah, alors, la céramique ou la poterie, hein, on peut appeler ça comme on le souhaite, ça demande énormément d'étapes. Il faut du temps parce qu'on va commencer par travailler sa terre. Donc, quand je dis travailler sa terre, c'est... moi, je l'achète, ma terre. Hein. Je travaille du grès. Il arrive en pain de terre emballé. Ensuite, donc, je la prépare, c'est-à-dire que je la malaxe un petit peu comme quand on fait une pâte à pain, pour pouvoir ensuite travailler sur mon tour. Je la pèse en fonction des contenants que je veux réaliser. Ensuite, donc, je tourne. Chaque pièce est faite individuellement. Ensuite, il faut respecter un temps de séchage pour pouvoir ensuite travailler les pieds. Donc, le dessous de chaque pièce est retravaillé sur le tour le lendemain, à peu près. Ensuite, on vérifie son séchage et on peut passer au décor. Une fois que le décor est fait, c'est-à-dire une fois que j'ai appliqué les couleurs, je vais procéder à un séchage total de la pièce avant de l'enfourner une première fois à 1000 degrés. Une fois que le four est monté en température et qu'il est redescendu en température, il lui faut une bonne grosse journée. Je vais pouvoir émailler les pièces. Donc les pièces, je les trempe dans des seaux d'émo différents, transparents ou pas, ou à effet. Et je relance une cuisson qui, là, va monter à 1260 degrés. Et une fois qu'on a ouvert le four, là, on est satisfait ou pas du résultat. Donc il faut beaucoup, beaucoup de patience. Il faut vraiment laisser le temps à la terre de nous mener au résultat. On ne peut pas travailler dans la précipitation en céramique, c'est impossible. Donc ça m'a beaucoup appris. Je ne suis pas du tout quelqu'un de patiente à la base. Donc voilà, c'est une technique qui ramène à la patience et à l'essentiel.
Et pour découvrir les créations de Lydie, l'atelier vous ouvre ses portes vendredi 17 et samedi 18 décembre de 10h à 19h. C'est au 66 rue du Petit Montolon à Saint-Denis-les-Bourgs. L'atelier Madeira propose lui aussi des planches à découper en bois. Marline réutilise des chutes de bois pour ses créations. Elle est sur la commune de Bresse-Vallon. Et un numéro de notre émission « Vous avez la solution » va lui être consacré le 29 décembre à 8h et midi. Pour retrouver ses fabrications, c'est sur le site madeiraatelier.com.
Le centre socioculturel de la Grande Ressouze fête Noël.
Samedi 18 décembre, de 17h à 20h, le centre s'illumine pour les habitants du quartier avec des activités gratuites comme une déambulation de lampions, une séance photo avec le Père Noël ou encore des chorales.
L'invité de Radio B.
Ce 18 décembre, comme chaque année, c'est la Journée internationale des migrants, une date décidée par les Nations Unies, une occasion pour déconstruire les préjugés et rappeler qu'ils apportent des choses à leur pays d'adoption. C'est le combat de Yaya, jeune Guinéen de 20 ans, aujourd'hui apprenti boulanger au Centre de formation professionnelle, le CECOF, à Amberieu-en-Bugey. Mamadou Yaya Ba, dit Yaya, a obtenu son récépissé de carte de séjour en mars dernier, après des mois de mobilisation et une grève de la faim de son employeur, Patricia Iverna, boulangère dans la Dombe. Yaya est arrivé en France en 2017. Le jeune Guinéen avait alors 16 ans. Sans papier, il avait reçu une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Yaya, bonjour.
Bonjour.
Vous avez récupéré le récépissé de votre titre de séjour en mars dernier. On va en parler dans quelques instants. À vos côtés, donc, il y a Laurence Bullin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre fondatrice du collectif, donc pour aider les jeunes étrangers. On en parlera aussi dans quelques minutes. Et vous êtes praticienne en psychothérapie.
C'est ça.
Yaya, donc, début mars, ça y est, le récépissé de titre de séjour entre les mains, qu'est-ce qui s'est passé depuis ?
Depuis le mois de mars, beaucoup de choses ont changé, notamment pour ma liberté et pour mes démarches administratives. Parce qu'avec mon récépissé, qui a été suivi d'une carte de séjour, aujourd'hui je suis libre de faire mes démarches administratives et vivre sereinement en France.
Donc ça y est, vous êtes sûr de rester en France ?
Oui, je suis sûr de rester en France pour le moment, pendant cette année, je suis en tout cas libre.
Et au niveau professionnel, parce que donc vous êtes apprenti boulanger dans la Dombe, racontez-nous.
Ça se passe très bien. Je suis en apprentissage. Je continue mon apprentissage dans les Dombes et je reviens voir mes copains à la communauté Emmaüs quand il y a du temps. Et à l'école, ça se passe très bien. Je suis en deuxième année et je suis le délégué de classe.
Donc au CECOF à Ambérieu,
c'est ça, CECOF à Ambérieu, où vraiment il y a des super formateurs et formatrices, et la directrice aussi, elle est sympa.
Et combien de temps d'études alors?
C'est devenir... 2 ans, normalement, c'est 2 ans, mais vu que j'ai commencé en mois de mars, et mes compétences m'ont permis de passer en deuxième année cette année, donc j'espère avoir mon CAP en mois de mai prochain.
Alors Yaya, vous êtes arrivée en France en 2017, quel a été votre parcours?
La parcours a été longue, difficile et très difficile parce que avant tout, je suis arrivé par Grenoble et après mon évaluation, je vais vous dire que j'étais évalué dans ma langue maternelle parce que je ne comprenais pas le français et ils m'ont transféré à Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Et jusqu'à nos jours, ça n'a pas été très facile, mais j'avais le courage et voilà, aujourd'hui je suis là.
Et donc, vous êtes passé par la communauté Emmaüs de Bourg-Servas. Comment vous êtes arrivé à cette communauté?
Moi, j'étais dans une structure d'accompagnement des jeunes mineurs isolés, étrangers, si vous voulez.
Oui, parce que vous étiez mineur quand
oui,
vous êtes arrivé en France.
Je suis arrivé en France, mineur, et je suis resté 2 ans dans les structures d'accompagnement. Et après, je suis sorti. Voilà, je suis sorti en main vide. Aucun accompagnement suffisant n'a été fait. Comme la plupart des jeunes, d'ailleurs. Donc, je suis allé, comme heureusement, j'avais des bonnes personnes autour de moi. Ils m'ont aidé à rencontrer la communauté Emmaüs que je ne connaissais pas avant. Et là, je suis arrivé à ces Emmaüs. Ils m'ont donné à boire lorsqu'ils avaient soif, donné à manger lorsqu'ils avaient faim. Ils m'ont mis dans une chambre chaude lorsque j'étais fatigué et froid. Parce que c'était en hiver que j'ai laissé les dispositifs. Donc, quand je suis arrivé, ils m'ont donné ça et ils m'ont expliqué le règlement. Il faut que vous soyez laïque, respectez la culture et la religion des autres, tout en travaillant pour nourrir la communauté. Et au retour, la communauté vous nourrit. Donc c'est simple que ça.
Donc vous êtes resté combien de temps dans cette communauté Emmaüs?
J'ai fait 2 Emmaüs, 2 communautés en général, mais j'ai fait à peu près 3 ans, plus ou moins 3 ans. Et voilà, finalement j'ai été régularisé par la bonne volonté de la préfète qui... En tout cas, avait eu, suite à des manifestations, a eu le plaisir d'ouvrir mon dossier et a accepté ma demande.
Donc, hier, vous avez lancé un collectif d'aide aux jeunes étrangers, ces jeunes qui veulent eux aussi rester et travailler en France. Comment est né ce collectif?
Ce collectif est né après plusieurs réflexions de les Mougnas, de Laurence et moi-même. Parce que nous avions plus ou moins des mêmes problèmes. Des problèmes parce que nos droits sont bafoués dans les structures. Et quand nous sortons, nous avons des problèmes. Souvent, on avait des problèmes psychologiques. Résine, une dame très généreuse, nous a faire rencontrer Laurence qui est là, qui a été très disponible pour nous et qui est encore disponible pour nous, nous aidait au fur et à mesure. À chaque fois qu'il y a une zone perturbée, on l'envoie chez Laurence. Et après, on a dit, mais pourquoi voulons-nous voler par nous-mêmes chaque fois, chacun suit son problème? Pourquoi pas faire un collectif pour regrouper tous nos problèmes? Donc c'est comme ça, ce collectif, il est né, pour empêcher l'isolement des uns et des autres.
Laurence Bulin, donc vous êtes membre fondatrice de ce collectif, et je rappelle donc praticienne en psychothérapie. Comment avez-vous rencontré ces jeunes?
Donc pour les jeunes que j'ai rencontrés, donc comme l'a dit Yaya, par l'intermédiaire de Régine, une femme exceptionnelle aussi dans ce qu'elle apporte aux jeunes qu'elle rencontre. Et puis, c'était suite aussi à un film qui était passé libre. Mmh. C'était libre.
De Cédric.
Voilà, de Cédric. Donc, à l'issue de ce film, j'ai rencontré quelques jeunes. Et je leur ai proposé, pour ceux qui le souhaitent, mes services en psychothérapie pour les accompagner. Certains sont venus et de là, j'en ai rencontré d'autres. Et voilà, c'est comme ça qu'on a pu observer que des problématiques vécues en France dans l'administratif ajoutaient à des souffrances déjà présentes. Donc on s'est dit, qu'on allait se regrouper pour d'abord faire un état des lieux, quels sont les problèmes rencontrés, les difficultés, quels sont les besoins des jeunes et comment on peut essayer d'y réfléchir ensemble pour, sinon apporter des solutions, en tout cas alerter aussi sur ce qui se passe pour eux.
Vous avez fait un état des lieux, est-ce que vous pouvez quantifier le nombre de jeunes dans l'Ain qui ont besoin d'accompagnement?
Alors, qui ont besoin d'accompagnement, c'est difficile de le quantifier, mais en tout cas, dans notre collectif aujourd'hui, on réunit à peu près une quarantaine ou cinquantaine de jeunes.
Qui sont dans quelle situation? C'est-à-dire qu'ils sont pareils, qu'ils sont mineurs, majeurs?
Il y a les majeurs, parce qu'au départ, on avait ciblé quand même les jeunes majeurs qui sortaient du dispositif de la protection de l'enfance, comme l'a bien expliqué Yaya, qui pouvaient ne pas avoir de solution et d'hébergement et d'apprentissage et donc de revenus et donc une difficulté à l'accès alimentaire aussi. C'est beaucoup ces jeunes-là. Et puis, ça peut toucher des mineurs qui sont déjà inquiets quant à leur sortie. Ils sont souvent angoissés des perspectives qui seront les leurs à la sortie du dispositif de la protection de l'enfance.
Et qu'est-ce que vous leur proposez alors à ces différentes personnes qui sont membres du collectif?
Nous, on n'a pas la force parce qu'on n'a pas le financement. Mais nous pouvons les accompagner dans plusieurs trucs, c'est-à-dire administrativement leur montrer les bureaux où il faut aller, socialement leur montrer dans quelle association ils peuvent se diriger. On peut chercher des places, notamment à Emmaüs, parce qu'Emmaüs a été mon sauveur moi-même. On peut les conduire pour récupérer de la nourriture au Resto du Cœur, qui est vraiment très, très social envers nous. Et le Secours catholique aussi, pendant la crise sanitaire, nous donnait des tickets de service. Donc, toutes ces aides nous apportent un soutien pour ces jeunes qui en ont vraiment besoin.
Et quel serait le message que vous avez envie de faire passer à travers ce collectif?
C'est vous, jeunes, qui pouvez vous donner tort aux personnes qui vous traitent de méchants, de vauriens ou de profiteurs. C'est à vous, jeunes, qui peuvent vraiment donner raison à ces personnes qui vous soutiennent et qui vous accompagnent. Donc nous, en connaissance du terrain et en connaissance de notre passé, à notre présent maintenant, nous pouvons dire tout ça aux jeunes. Et cela peut aider ces jeunes à avoir le courage de chercher leur stage, à avoir le courage de continuer leur stage et à avoir le courage de donner la force à leur patron de les maintenir. Là, et la raison, elle est simple. Tous les jeunes qui sont en contrat d'apprentissage finissent toujours avec des CDI s'ils ont leurs papiers, parce que leurs patrons sont contents d'eux, parce que leurs patrons sont heureux de travailler avec eux. Donc nous aimerions que la préfecture, les autorités qui décident qui reste et qui part, nous accordent des titres de séjour pour travailler et rendre ce qu'ils ont dépensé pour nous pendant que nous étions mineurs dans ce département.
Yaya, Laurence Bulin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous de nous avoir reçus, de nous avoir donné la parole.
Merci à vous, merci à vos auditeurs et auditrices qui nous suivent.
Un des objectifs du collectif, c'est l'hébergement, trouver plus de places pour loger ces jeunes, souvent sans solution à leur majorité. Pour contacter le collectif, envoyez un mail à collectifjm01@gmail.com. Pour la journée du samedi 18 décembre, le collectif Solidarité Migrants de l'Ain sera présent au marché de Bourg-en-Bresse à la rencontre des habitants et à 17h à la salle Olympe de Gouges, au-dessus du restaurant La Canaille, pour une conférence débat avec Mathilde Dubesset, historienne de formation, normalienne et agrégée. Elle a aussi été la présidente de la CIMAD Auvergne-Rhône-Alpes et elle y est toujours bénévole. Un rendez-vous pour échanger sur les migrations et en particulier les femmes dans les migrations. Nous avons joint Mathilde Dubesset par téléphone.
Les femmes, contrairement à ce qu'on pense, elles sont aussi nombreuses que les hommes. C'est à peu près du 50% de femmes parmi les migrants.
Et qui sont ces femmes qui migrent ?
Alors, ces femmes qui migrent, c'est très très varié. Vous avez des femmes qui migrent pour des raisons familiales, qui ont de la famille en Europe, par exemple. Hein, c'est le cas de pas mal de personnes africaines, par exemple, ou du Maghreb. Alors, elles peuvent partir avec des enfants, pour rejoindre donc quelqu'un de la famille donc ailleurs en Europe. Il y a aussi pas mal de femmes qui, ou de jeunes femmes en particulier, qui ne supportent plus des formes de violence, des comportements dans leur société. Donc elles veulent partir de s'installer en Europe. Elles voient l'Europe comme un territoire quand même où peut-être elles pourront vivre une vie meilleure que celle qu'elles ont dans leur région, dans leur pays. Alors, il y a aussi des femmes qui partent pour des raisons, tout simplement, des jeunes femmes aussi d'ailleurs, qui partent parfois d'ailleurs seules, plus qu'on ne le penserait. Ça n'est pas seulement d'ailleurs la misère, comme on le dit souvent, comme on l'imagine, hein. C'est aussi parfois des femmes qui, d'ailleurs, comme des jeunes hommes aussi, hein, elles vont partir parce que voilà, elles veulent une vie meilleure que la vie qu'elles mènent dans leur pays d'origine. Et elles veulent faire des études et elles veulent travailler. Il ne faut pas aussi oublier que nombre de femmes migrantes, et ça c'est une chose qui est peu connue, ont un bagage en termes d'études pas négligeable du tout. Hein. Elles arrivent, alors surtout en plus, dans la mesure aussi elles sont francophones, pour pas mal, hein, pour les Africaines en particulier. Donc quand elles arrivent en France, elles pourraient se débrouiller assez facilement, sauf que bien sûr, l'accueil n'est pas à la hauteur, je dirais, hein, des espérances de ces femmes.
Mathilde Dubesset, est-ce que c'est plus difficile de migrer quand on est une femme ?
C'est assez difficile de répondre parce qu'en fait, oui, on penserait d'emblée que oui, ce serait particulièrement difficile puisque elles sont plus vulnérables, je dirais, face aux violences, hein, des violences physiques. Hein, le viol, par exemple, le risque de viol est une réalité, hein, sur les routes migratoires. Mais en même temps, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus et je pense à un très beau livre d'une dame qui s'appelle Camille Schmoll, qui a fait donc un ouvrage sur, qui a écrit quelque chose, elle est géographe de formation, et elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les années de la mer, femmes dans la frontière », et elle montre comment ces femmes, alors elles ont souvent cette capacité, par exemple, sur le parcours qu'elles font, de lier des connaissances avec d'autres personnes, et d'autres femmes d'ailleurs en général, avec lesquelles elles font la route, hein, et il y aura une forme d'entraide qui va s'installer, et elles sont souvent parfois un peu plus, j'allais dire, malines, ou enfin plus dégourdies, pour parfois, au moment où il faut passer la frontière, enfin, elles jouent un petit peu sur leur féminité pour finalement arriver à passer à là où parfois les hommes ne passent pas. Voilà, elles sont très très... toutes celles qui ont pu arriver en Europe, c'est aussi le fait qu'elles avaient déjà une grande volonté farouche, hein, d'arriver à leur destination. Hein.
Mathilde Dubesset, historienne de formation normalienne et agrégée, elle a aussi été la présidente de la CIMAD Auvergne-Rhône-Alpes et elle y est toujours bénévole. Elle est l'invitée d'une conférence débat organisée par le collectif Migrants de l'Ain ce samedi 18 décembre à 17h à la salle Olympe de Gouges au-dessus du restaurant La Canaille. Vous sentez comment là avant l'arrivée de monsieur le député ?
On s'échauffe tranquille, respirez bien.
En reportage avec Radio B.
Un prix pour récompenser les meilleures volailles de l'AOP de Bresse. Inès, vous avez participé à la Crête d'Or.
Les Glorieuses, ce sont des concours qui récompensent les plus belles volailles crues. Elles ont lieu dans 4 communes cette semaine et à Bourg ce vendredi. Mais en parallèle, il y a aussi ce prix de la Crête d'Or pour récompenser la meilleure volaille en bouche. Cette année, j'ai pu assister à ce prix comme jury novice. Et c'était ce lundi matin à la Brasserie Bernard, en présence du chef étoilé Georges Blanc. Cathy Molière nous accueille. Elle est chargée de communication au comité interprofessionnel de la volaille de Bresse, la structure qui organise la Crête d'Or.
Alors aujourd'hui, nous sommes au restaurant Place Bernard pour le 16e concours de la Crête d'Or à Bourg-en-Bresse. La Crête d'Or, c'est un concours de dégustation sur une poularde de Bresse. Une poularde de Bresse, c'est une femelle gauloise blanche de Bresse, donc sous appellation, et c'est une femelle qui n'a pas encore eu sa première ponte. Donc c'est une femelle qui a été élevée entre 5 et 6 mois, hein, on est plus proche des 6 mois, et juste avant sa première ponte, eh bien on va la sublimer pour qu'elle sublime notre plat surtout, enfin notre assiette surtout.
Et donc ce concours, il existe depuis quand et pourquoi il a été créé ?
Alors en fait, les concours de dégustation ont été créés, alors tout dépend un petit peu des villes, ils ont été créés il y a quelques années parce qu'on faisait des concours de volailles fines, mais des concours de volailles mortes, un concours d'esthétique, et en fait on s'est dit que ce qui est intéressant, c'est pouvoir peut-être voir quelles sont les différences gustatives, de texture, de jutosité, le fondant des volailles, et ben en fait en fonction du terroir, même si on est dans la zone d'appellation Bresse, et ben on peut avoir des différences entre les éleveurs et entre la flore, la faune que les animaux vont pouvoir trouver sur le parcours herbeux. Et c'est une deuxième reconnaissance entre guillemets entre le concours de volailles crues en fait et cuites.
Qui sont les jurés? Combien il y en a? Comment vous les choisissez?
Alors, on fait une liste avec donc la ville de Bourg, le comité des fêtes et le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse. On donne des noms et ensuite on fait une sélection. Alors, on essaie de mixer entre des jurys experts et des novices, parce que c'est toujours intéressant d'avoir vraiment les experts bressants qui ont l'habitude de déguster et qui ont l'habitude de participer au concours. Et aussi, des personnes complètement d'extérieur qui ne connaissent pas du tout. Ça permet aussi de transmettre ce savoir-faire et ce concours exceptionnel qu'est la Crête d'Or. Donc ils sont 16, 16 jurys en binôme. On essaye de faire un expert et un novice.
Qui a comme figure un peu de gens un peu connus?
Alors forcément, aujourd'hui, on a Georges Blanc qui sera là, qui est le président du comité de la volaille de Bresse depuis plus de 30 ans et qui va participer au concours puisqu'on a aussi la chance d'être aujourd'hui dans un de ces établissements. On a Antonio Salvatore qui est un jeune chef étoilé qui a eu sa première étoile cette année, qui nous vient de Monaco, qui était ravi qu'on l'invite à ce concours. Donc c'est un novice, mais bon, on va dire qu'il a l'habitude quand même de déguster de bons produits. On a des élus du territoire, de la ville. On a également des journalistes. C'est assez varié. On essaye d'avoir un jury plutôt mixte et diversifié.
Et donc là, en cuisine, comment ça se passe en fait ?
Alors en cuisine, donc le chef du restaurant Place Bernard fait une volaille tout simplement rôtie, sans sel, juste un peu de poivre, mais très peu assaisonnée. Il faut pas du tout qu'elle soit assaisonnée, donc c'est tout simplement rôtie pour garder vraiment le goût de la viande, quoi. Et en même temps, une volaille de Bresse, elle se suffit à elle-même, j'ai envie de dire. Donc des fois, elle a pas besoin de plus. Donc là, c'est vraiment le plus simplement possible. Et ils vont avoir un petit bout de. Et ensuite, ils découpent. Donc les volailles sont rôties, toutes de la même manière. Donc dans le four, même température. Voilà, faut vraiment qu'elles soient cuites à l'unisson. Et ensuite, ils découpent des petits morceaux, ils font des assiettes. Donc un morceau de blanc, un morceau de rouge. Et on régale les papilles de nos jurys, j'espère.
Les poulardes sélectionnées pour ce prix ont participé aux Glorieuses de Bresse en 2019, le concours de volailles crues et emmaillotées. Parmi elles, 5 ont été tirées au sort pour participer au prix de la Crête d'Or. Dès 10h30, dans la brasserie Bernard de Bourg-en-Bresse, les jurys novices ou plus expérimentés s'installent par duo à leur place. Et je suis à côté de Fabien Picard, fromager à Bourg-en-Bresse. Nous goûtons la première volaille de la matinée, la numéro 5.
Allez. Avec le couteau, on teste déjà la texture.
Finesse de la peau.
Ouais, c'est épaisse quand même.
Nous goûtons des morceaux de blanc et de cuisse pour chaque poularde AOP de Bresse. Et pour chaque morceau, il faut cocher des cases selon s'il est plus ou moins ferme, goûtu, gras, juteux. En tout, il y a 11 critères. Et ensuite, il faut donner une note finale.
Vous venez souvent ici faire le concours ?
Alors là, c'est la deuxième fois que j'ai été invité en tant que juré. Et c'est toujours assez sympa de découvrir et de noter ces volailles.
Donc là, on a mangé la volaille 5, mais la première volaille de ce concours, c'était comment ?
Vu que c'est la première, c'est un peu dur de se faire une idée. Et c'est souvent en comparant à la fin qu'on va vraiment se décider, je pense.
Vous avez mis combien ? Il faut mettre une note sur 20 ?
J'étais très sévère, j'ai mis 10.
Qu'on peut changer après, si oui. Jamais.
Nous avons goûté en tout 5 poulardes et il est temps de rendre nos feuilles pour désigner le gagnant. Fabien Picard nous donne son choix.
Donc là, on a goûté les 5 poulardes et la meilleure, c'est laquelle ?
La quatrième dégustation qui était pour moi la meilleure de toutes. Voilà.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Bah parce que on retrouvait vraiment les typicités de la poularde de Bresse. Avec du gras mais sans être trop gras, une texture assez ferme qui tient en bouche et un goût assez prononcé quand même, ce qu'on ne retrouve pas dans des poulardes classiques.
Georges Blanc, chef étoilé et président du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse, nous explique aussi son choix.
La qualité était assez homogène, hein. C'est difficile de les... Il n'y a pas eu un écart très important entre sur les 5 qui nous ont été présentées, je pense qu'elles étaient assez proches les unes des autres, mais pour moi, il y en a quand même une qui était meilleure. Alors pour moi, c'était la numéro 4. Mais vous voyez, c'était très serré, hein, parce que vous voyez, ma grille, elle va de 15 à 18.
Qu'est-ce qui a fait la différence alors ?
Peut-être le goût, peut-être la jutosité, voilà, la finesse de la peau. Il y avait une harmonie, si vous voulez, à la dégustation entre tous ces éléments. Jutosité, goût, finesse de peau. Voilà, ça se ressentait aussi très, très fortement sur le muscle rouge, c'est-à-dire la cuisse.
Et vers 12h30, le comité de la volaille de Bresse a fait les moyennes des scores de chaque volaille. C'est la dernière poularde que nous avons dégustée qui l'emporte. L'identité du gagnant ne sera révélée que vendredi à partir de 14h dans le cadre des Glorieuses de Bourg-en-Bresse sous la halle du marché.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et Radio B ferme ses portes pour les fêtes, mais il y a toujours des émissions diffusées pendant les vacances, notamment le prochain Vous avez la solution le 29 décembre à 8h et midi. Il est fait par David, qui s'en va d'ailleurs pour de nouvelles aventures. On lui souhaite une bonne continuation.
À vous les Burgiens reprend le 10 janvier sur le 90FM. D'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.